tout à fait autre chose, quoique. François, bonjour François. François Briançon, bonjour, c'est toi. Alors, tu viens de publier un livre à l'Harmattan, on était prévenu hier, qui s'appelle Le Monde en 888 jours. Si je rebondis sur, un peu sur la conversation qu'on vient d'avoir, j'ai parcouru ton livre. Toi aussi, il y avait la recherche de l'aventure, pure et simple, dans ce voyage.
Alors, il y avait l'aventure, mais c'était pas le volet principal. C'était partie du voyage à certains endroits, parce qu'effectivement, ils étaient. C'était assez dangereux, mais c'était pas l'unique voyage-là.
Je parle pas forcément du danger, d'ailleurs. Je passe de la recherche d'autre chose, parce que bon, tu vas nous raconter ton histoire. Ça commence, il y a 4 ans, c'est ça?
J'ai commencé, il y a 4 ans exactement. Ouais. Le 18 octobre 2010, je suis parti de Shanghai où j'ai travaillé pendant 2 ans, en fait.
T'habitais à Shanghai en 2010. Qu'est-ce que tu faisais? Tu t'importais du vin, c'est ça?
Je représentais des vignerons français, donc sur la Chine. Donc 12 vignerons français un petit peu éparpillés partout en France. Et donc j'étais leur représentant local. J'avais un bureau à la Chambre de commerce et d'industrie française à Shanghai.
D'accord.
Et donc j'avais pour mission de développer leur activité, trouver des importateurs chinois, puis vendre leur vin sur le territoire chinois.
2010, t'étais là depuis 2 ans, c'est-à-dire que t'es arrivé à Shanghai vers 2008. C'était déjà c'était le grand chaos chinois, comme tu dis.
2009, non. L'Eldorado chinois, non, je suis arrivé en mars 2009, je suis parti en octobre 2010, et auparavant j'avais fait 6 mois à Pékin, quelques années auparavant. Donc 2 ans en Chine, en tout et pour tout.
Et c'était le début de, enfin c'est ce que tu appelles à un moment, si je me souviens bien, le grand chaos chinois, quoi. C'était un grand bordel là.
Grand chaos, alors oui, mais la Chine c'est le chaos si on veut, parce que effectivement ça bouge énormément, et d'un point de vue occidental on comprend pas toujours ce qui se passe.
Ouais.
Après c'est aussi ce qui fait qu'il y a des opportunités, donc si on se donne les moyens et si on se bouge et si on cherche vraiment et si on sait là où on veut aller, on peut toujours finir par trouver quelque chose. Après, que ça dure ou que ça dure pas, ça c'est encore autre chose, hein. Mais en tout cas on peut toujours essayer, il y a des chances et il y a des opportunités pour essayer quelque chose, et c'est ça qui fait la grande différence à l'heure d'aujourd'hui entre, on va dire, la Chine et, on va dire, l'Europe.
et un beau matin, malgré tout ça, tu te dis j'ai envie de casser la routine, j'ai envie de voir autre chose, de découvrir le monde, tu recherches la liberté et tu t'en vas.
Voilà, alors c'est venu d'un coup, mais bon, évidemment c'est le fruit d'une longue d'un long processus, etc. Mais disons que je me déplaisais pas en Chine en soi, hein. Je me déplaisais ni en Chine ni dans mon travail, qui était super super stimulant, super intéressant, mais c'est simplement, il manquait quelque chose, et je voulais voir le monde, je voulais avoir un cliché du monde à l'instant T. Donc pendant 2 ans et demi, entre mars octobre 2010 et mars 2013, je voulais vraiment me faire mon idée du monde, ma propre idée. C'est pour ça que j'ai décidé en fait de voyager sans m'arrêter, parce que je voulais vraiment l'instant T, avoir un cliché le plus représentatif d'un petit peu ce qu'est le monde aujourd'hui.
Ouais.
Et c'est pour ça que voilà, je suis allé dans des extrêmes.
Ouais. C'est pour ça cette impression de rapidité, enfin de rapidité. Tu restes pas aux endroits. Tu viens, t'es un homme en chemin, non, en permanence, mais autour du monde, comme si tu t'arrêtais pas de marcher autour de la Terre.
Je voulais aller un petit peu voir un petit peu aux limites du monde, si je peux me permettre. C'est-à-dire voir dans des limites politiques, dans des limites religieuses, dans des limites sociales, climatiques. Je voulais vraiment avoir un aperçu de tout ce qui fait un petit peu le monde aujourd'hui.
Ouais.
Donc aller dans un pays communiste comme la Corée du Nord et Cuba, c'est bien, mais il fallait pour que je puisse avoir un regard juste sur ces pays-là, il fallait aussi évidemment que j'aille aux États-Unis et au Canada, par exemple.
Et donc, t'as fait une grande...
Que j'aille voir un pays musulman, c'était super, et je voulais aussi voir les pays hindous, les pays chrétiens, etc. Donc c'était pas du tout en jugement de valeur, c'était pas une recherche spécifique, c'était vraiment un aperçu global, et pour ça j'ai choisi minutieusement et précautionneusement les meilleurs endroits dans lesquels aller.
Et donc, tu as fait une grande balade qui t'amène de Chine à l'Asie du Sud-Est, à l'Inde, l'Afrique, les États-Unis, l'Amérique latine aussi, je crois, le Canada. Enfin, tu fais une grande balade autour du monde, quoi. Tu vas à peu près partout. Enfin, à peu près.
Il y avait les grandes zones, en fait. Il y avait quelques pays clés dans lesquels je voulais passer, parce que c'était des pays dont on entend parler il y a déjà 4 ans, mais encore aujourd'hui. Je pense notamment à l'Inde, le Pakistan, Israël, qu'on peut pas oublier évidemment sur l'échiquier mondial, la Syrie dans une moindre mesure, puisque je suis pas allé, j'ai entendu la discussion précédemment, je voulais pas aller moi sur les fronts de guerre, j'ai cherché les limites au-delà desquelles c'était plus raisonnable de mon point de vue. Mais aussi l'Algérie, du point de vue de la France, l'Algérie c'est un pays absolument fascinant, super, et en plus il est super beau. Et quoi qu'il arrive à l'heure d'aujourd'hui, qu'il y ait quelqu'un qui s'est fait décapiter, ça change pas du tout pour moi aujourd'hui l'image de l'Algérie. Ou bien sûr, bah, après l'Afrique de l'Ouest, voilà, le Nigeria, l'Afrique de l'Est, puis toutes les Amériques, la remontée.
Mais il y a un côté Nord-Est. Il y a un côté chroniqueur d'actu un peu dans ton histoire, parce que comme tu as prononcé plusieurs fois le mot politique, géopolitique, problèmes sociaux, finalement, tu avais envie de te faire ta propre opinion sur l'actualité, sur le monde maintenant.
Exactement, parce qu'on nous donne à manger, si je peux me permettre, on nous donne à manger un petit peu des infos, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit par les médias, ou que ce soit tout simplement par des on-dits, par des amis, etc. Et moi, à un moment donné, il y a eu un stop, un ras-le-bol, parce que j'arrivais plus à faire le pont entre ce que j'entendais un jour et ce que j'entendais le lendemain, ou ce que j'entendais à tel endroit du globe et ce qu'on peut entendre à l'autre. Et du point de vue de la Chine, notamment, déjà en travaillant, en étant expatrié en Chine, on se rend compte de grosses différences. Donc il y a eu un petit peu un ras-le-bol, et j'ai décidé de tout mettre à plat, et de voir justement un petit peu à quoi ces réalités ressemblent réellement sur le terrain, à travers l'expérience. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que j'ai dû choisir, j'ai bien choisi les endroits dans lesquels j'allais, pour que cette vision-là puisse être aussi juste que possible. Pas idéale et pas parfaite, puisque ça peut jamais l'être, ouais. Au moins le plus idéal possible.
Alors, on peut pas tout raconter, les auditeurs liront le livre, hein. C'est chez l'Harmattan, ça s'appelle Le Tour du Monde en 888 jours. Tout ce que je vais te demander,
c'est...
Le Monde en 888 jours. Ce que je vais te demander, juste en une ou deux minutes, c'est... Alors, ta conclusion après tout ça, il est comment, le monde? C'est difficile. Mais... Non, mais t'es plutôt... Après l'avoir... Tu sais, on a des auditeurs qui font le tour du monde et qui finalement reviennent en disant « Ah bah, je suis plutôt optimiste, je suis optimiste sur ce qui va se passer quand on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de gens qui vont bien, qui font beaucoup de choses, etc. » Toi, je t'ai senti, de ce que j'ai lu, je t'ai senti plus pessimiste quand même.
Non, je ne suis pas pessimiste. On peut être optimiste simplement... Quand on parle, il y a un problème. À la base, c'est quand on parle un petit peu d'ailleurs, souvent on parle de ce qui ne va pas. À la télé, on parle de la guerre, parle des conflits, on parle des dictatures, on parle de ce qui ne va pas. Donc forcément, quand on va sur le terrain, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien. Donc le décalage, là, dans ce sens, il est réellement positif.
C'est vrai.
Parce que ça, c'est plutôt bon signe. Après, il y a des pays comme l'Iran, notamment, et tous les voyageurs qui vont en Iran le disent. C'est un des pays qui est plus le sujet à ce décalage-là, justement. Et les gens sont accueillants, les gens sont civilisés, les gens sont éduqués. Par contre, le pays est fermé, donc forcément, il y a une frustration qui naît, et ce qui fait qu'ils sont très, très accueillants. Mais le monde est décalé. Enfin, justement, c'est ça tout l'enjeu. Et moi, le but, c'était un petit peu de rattraper ce décalage-là pour être au plus près des réalités d'aujourd'hui.
D'accord. François, écoute, je suis obligé de te laisser parce que je voudrais quand même prendre quelques minutes avec Stéphane qui nous attend en Indonésie. Bah, François, merci beaucoup. On se rappelle à l'occasion. Merci. Le Monde en 888 jours, c'est chez l'Harmattan. Merci beaucoup, on met le lien.
Merci Eric.
À la prochaine. Merci.
À la prochaine,
et